Nous allons faire une première lecture dans le prophète Ézéchiel au chapitre 22, s'il vous plaît. Voilà, n'oubliez pas d'éteindre vos portables et n'oublions pas que nous sommes dans la présence de Dieu. Vraiment, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de la faveur parce qu'ils n'ont pas réalisé que le Seigneur est au milieu de nous. Dans Ézéchiel au chapitre 22, il y a un constat. Et Dieu recherche quelqu'un. Ézéchiel 22, verset 23. Lisons avec beaucoup de respect. N'oubliez pas que ça sortit de la bouche du Seigneur Dieu lui-même. Ézéchiel 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous pouvez garder la page, on va aller un petit peu plus loin. Si c'est difficile pour vous, ne le cherchez pas, c'est dans le prophète Habacuc. Habacuc est un homme qui est passé du doute à la foi dans ce livre. C'est un homme qui a entendu ce que Dieu va faire. Habacuc chapitre 3, verset 2. Nous allons lire juste le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Regardez sa réaction. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. On va revenir en avant dans l'Ecclésiaste. Nous allons voir un conseil que Dieu donne à tous les hommes. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Trois textes, nous aurions pu en prendre d'autres. Je reviens au second où Habacuc s'est tenu devant Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ou d'apprendre à faire, à nous tenir devant Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré sa colère. Si vous avez écouté les prophéties, si vous avez même écouté la chorale, qui, si je ne me trompe, a utilisé le psaume 145, pour nous rappeler que Dieu est lent à la colère, mais la colère de Dieu, elle viendra. L'Église, le chrétien qui vit avec Dieu ne sera jamais concerné par la colère de Dieu. Jamais. Nous étions des enfants de colère et Dieu nous a épargnés de la colère parce que nous sommes à l'abri du calvaire. Nous ne connaîtrons pas la colère. Elle vient. Habacuc l'a compris. Le chant, je ne sais pas si vous écoutez, si vous marquez, tiens, c'est le psaume 145, eh bien je vais le relire ce soir avant de dormir. Et vous verrez combien la colère de Dieu vient, mais que Dieu veut la repousser. D'ailleurs, dans Ézéchiel 22, on voit une chose, c'est que Dieu cherche quelqu'un pour repousser la colère. Parce que le jour de la colère, il va venir. Et quand la colère va venir, mes frères et sœurs, sur la terre, l'Église ne sera plus là. Mais nous ne nous rendons pas compte à quel point le monde va souffrir. Et Dieu, dans son infinie compassion, c'est pour ça que Habacuc dit, mais dans ta colère, il prie, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Il sait que Dieu peut repousser la colère. Et si d'ailleurs le Seigneur Jésus n'est pas encore venu chercher l'Église, c'est qu'il repousse sa venue. Pourquoi ? Parce qu'il veut sauver des hommes et des femmes qui ne sont pas encore entrés dans le royaume des cieux. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Seigneur. Il y a des œuvres à faire. Vous croyez qu'il y a des œuvres à faire? Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des œuvres à faire? Est-ce que c'est important pour vous, les œuvres de Dieu? Sérieusement? Ou est-ce que ça ne vous préoccupe pas beaucoup? Je répète, Dieu a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. C'est écrit. Est-ce que c'est important pour vous de dire, mais Seigneur, est-ce qu'au fait, je fais l'œuvre, les œuvres que tu veux que je fasse? Est-ce que l'Église dans laquelle nous sommes fait l'œuvre à laquelle elle est appelée? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? Vous devriez pouvoir répondre. Surtout quand on voit que ces textes, ces deux textes, ces trois textes même, sous-entendent vraiment que Dieu cherche des intercesseurs. Des hommes, des femmes qui sont conscients qu'il y a une guerre dans le ciel, qu'il y a un combat. Et beaucoup de gens sont tellement tracassés, occupés par leur propre combat, qui est le résultat de ce qu'ils vivent d'une manière charnelle, que l'ennemi, lui, bien sûr, se frotte les mains, empêchant ainsi l'Église de combattre le bon combat. Lorsque nous nous sommes convertis, alors la question, c'est vrai, je l'ai souvent répété, est-ce que tous les chrétiens sont nés de nouveau ? Est-ce que tous les chrétiens sont passés par la nouvelle naissance? Écoutez-moi bien, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais il y a même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Faites-moi confiance de grâce. Il est certain que dans ces églises-là, où les pasteurs sont des animateurs, il est certain que ça va être difficile d'amener des hommes et des femmes à devenir des intercesseurs. Parce que lorsqu'un homme se tourne vers Dieu, lorsqu'un homme accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur, il devient un intercesseur. Et normalement, chaque chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Il faut que ce temple soit purifié. Vous avez vu ce que Dieu reproche du temps du prophète Ézéchiel? Mais qu'est-ce qu'ils font ces pasteurs? Ils n'enseignent pas la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils n'enseignent pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils perdent les âmes, etc., etc. Le Seigneur fait ce constat, il le fait parce qu'il nous aime et parce qu'il veut vraiment que la maison de Dieu soit une maison de prière. Que notre temple personnel, soit un temple de prière. Un chrétien qui ne prie pas, ou qui ne prie presque pas, est un chrétien qui passe à côté de quelque chose, c'est évident, est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose. Et elle est loin de moi l'intention de culpabiliser qui que ce soit. Parce que le légalisme, ça tue l'Église. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. Donc loin de moi l'intention de faire des raisonnements. Je les ai faits pendant longtemps, ce n'est pas la peine que je continue. Je sais que lorsqu'un Dieu sauve un homme, lorsque Dieu sauve une femme, lorsque Dieu sauve quelqu'un, il va faire de lui un homme qui prie. Pas qui prie n'importe comment. Vous savez, quand est-ce que Jésus a rappelé la prophétie d'Ésaïe dans Matthieu, lorsqu'il dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Vous rappelez ce qu'il a fait avant? Vous rappelez ce qu'il a fait avant? Il est entré dans le temple, il a confectionné un fouet avec des cordes et il a chassé dans le temple tous ces vendeurs, tous ces changeurs, tous ces monnayeurs, etc. Et il a blessé personne, ne vous inquiétez pas, mais il a demandé à ce que le temple soit libéré de toute cette magouille. Même s'il faisait ça pour Dieu, c'était de la magouille. Et le Seigneur Jésus a rappelé cette prophétie pour nous montrer que Dieu n'a pas changé d'avis. Le Seigneur Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Je ne parle pas du bâtiment dans lequel nous sommes, même si c'est une vérité, mais je crois qu'avant que le bâtiment soit une maison de prière, il faudrait peut-être que chez nous, nos maisons, nos temples, nos vies, soient des temples spirituels. Vraiment. Vous savez ce que Jésus a fait après aussi ? Avoir cité la prophétie pour nous montrer qu'il était toujours du même avis, le Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Comment? Il a guéri des aveugles et des boiteux. Vous savez, lorsque Dieu met de l'ordre dans l'Église, ça ne fait pas partir les gens. Lorsque Dieu met de l'ordre dans l'Église, ça attire la bénédiction. Et les aveugles, les boiteux, c'est dans Matthieu 21, vous pouvez le vérifier, ils se sont approchés de lui. Et Jésus ne leur a pas dit, mais qu'est-ce que vous faites dans le temple? Vous savez ce qui est dit en ce qui concerne les aveugles et les boiteux dans l'Ancien Testament? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Non, 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 non. Et si dans l'Ancien Testament, les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire que lorsque les aveugles et les boiteux se sont approchés de Jésus, il les a tous guéris. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous faire des leçons. La volonté de Dieu, c'est de manifester sa grâce au milieu de nous. Que nos maisons soient des maisons où on comprend ce qu'est la prière. Moi, je comprends. Pour beaucoup, la prière, c'est devenu un fardeau. Moi, j'ai vu des gens ici, des gens intelligents, des gens qui aiment Dieu. M'ont dit, nous, la prière, ça nous bassine. Et pourquoi? Eh bien, parce que mon père, on priait une heure tous les soirs. Il nous faisait prier une heure. On n'en pouvait plus. Et ces gens-là, ils ne prient plus. Alors je sais bien qu'il y a des explications. Et ce n'est pas dans mon intérêt de vous décourager. Mais vous pouvez regarder les textes bibliques. L'œuvre de Dieu se fait lorsque la maison du Seigneur est une maison de prière. Une maison de prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est tout ce qui concerne la communion avec Dieu. Lorsqu'une prostituée rentre dans un temple et qu'elle demande pardon pour son péché, elle prie. La repentance, c'est une prière. Lorsqu'un chrétien qui va bien, très bien, et qui loue le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, il loue le Seigneur, il prie. Lorsqu'on intercède pour quelqu'un qui est malade, parce qu'on est malheureux de voir cette personne s'épuiser physiquement, on le supplie. La supplication, c'est de la prière. Lorsque vous êtes en silence devant Dieu, après avoir lu un psaume, peut-être ce soir vous allez le lire, le psaume 145, quand même. Qu'est-ce qu'il disait ce chant? Eh bien, vous allez rester peut-être 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure dans le silence. Le silence, c'est de la prière, lorsqu'on pense à Dieu, bien sûr. Et il y en a un qui ne veut pas que l'on prie. Il y en a un qui fera tout pour que notre temple soit souillé. Parce que si notre temple est souillé, eh bien le reste sera souillé. Si un pasteur est souillé, sa prédication sera souillée. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grosses études de théologie pour le comprendre. Et nous devons nous interroger par rapport à la prière avec beaucoup de cœur. Il y a des gens qui prient, moi je le sais, je suis pasteur. Il y a des gens qui me disent, je prie, je ne sais pas si ma prière elle s'arrête au plafond.
Je ne crois pas que quand même Dieu a institué la prière pour que des chrétiens qui ont 15 ans de conversion se posent la question pour savoir si la prière, elle s'arrête au plafond ou au mur. Moi, je crois que Dieu a institué la prière pour nous exaucer. Pour nous exaucer. Pour que nous obtenions la grâce, la miséricorde, et ne pas... Oh, moi, j'en ai marre. Et quand les enfants, en plus, les gens sont très, très, très intelligents, devant leurs enfants qui ne sont pas encore convertis. Oh, mais moi, j'en ai marre, je ne prierai plus. Ça ne sert à rien. Devant leurs enfants. Moi, je trouve quand même qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a un manque d'intelligence, vraiment. Qu'on se mette à genoux, seul, dans la chambre, et qu'on dit, Seigneur, tu vois, au niveau de la prière, c'est pas clair du tout. Il y a bien longtemps, Seigneur, que tu m'as pas exaucé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui fait obstacle à la prière? La Bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, qu'est-ce qu'elle est? Une abomination. Plutôt que de décourager vos enfants ou les gens ou les chrétiens qui sont peut-être faibles, parce que nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des gens qui sont faibles et nous pouvons les décourager. C'est pour ça que j'ai pris ce texte, mais quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ne te presse pas de parler. On a besoin de parler. Mais la prière, ce n'est pas forcément parler. Il n'est pas dit si quelqu'un est dans la souffrance qu'il parle à Dieu. Il est dit si quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Mais prier, ça peut vouloir dire aussi qu'il écoute. C'est le sens de ce qu'on a lu dans l'Ecclésiaste. Et je devrais m'interroger, Seigneur, ma prière, comment elle est ma prière? Après tout, quand même, on est des intercesseurs. Ma maison est une maison de prière. C'est le seul titre que Dieu donne à l'Église. Il aurait pu quand même, le Seigneur de l'univers, donner plusieurs noms à son Église. Il aurait pu dire, ma maison sera une maison de prédication, de sermon et de prière. Ma maison sera une maison de communion fraternelle, de prière, etc., etc. Le Seigneur donne un nom à sa maison. Un. Et il n'a pas changé d'avis puisque Jésus le répète 600 ans après, ma maison sera une maison de prière. Donc nous devrions nous poser la question, et je ne parle pas des prières de l'Église. Bien sûr que c'est tout bénef lorsque les chrétiens aiment se rassembler pour prier tous ensemble. C'est une chose. Mais mes frères et sœurs, ma maison à moi, mon temple à moi, ton temple à toi, ton corps à toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a fait un cadeau d'extraordinaire. Nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. Mais il va de soi que si nous commençons à laisser rentrer dans le temple tout un tas de choses qui ne glorifient pas Dieu, laissez-moi vous dire qu'il va falloir d'abord de l'ordre. Où j'en suis de la prière. Et c'est pas, je ne voudrais pas que vous interprétiez. Si je suis maladroit, dites-moi-le à la sortie. Parce que moi aussi j'ai envie de faire des progrès, croyez-moi. Mais où j'en suis de la prière, comment je prie? Est-ce que je prie que pour moi? Moi, je prie chez moi, tout seul. Moi, j'ai vu dans la Bible, prier les uns pour les autres. J'ai pas lu, prier chacun pour soi. Et il y a des chrétiens qui se sont éloignés du corps de Christ, en disant ceci, en disant cela. Vous savez, la semaine dernière, je me tiens devant Dieu. Je fais une petite parenthèse. Et j'ai pensé, parce que je pense qu'il y en a dans l'Église, j'ai pensé aux hommes forts de David. Parce que quand même, quand on étudie la Bible, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'élite dans la Bible, dans l'Église. En fait, quand même, dans l'Ancien Testament, il est parlé des hommes d'élite. Et il y a des hommes qui ont défendu David. Qui ont défendu David. Pourquoi ont-ils été attachés à David comme ça? Parce que David... Il était le roi. Et il ne défendait pas que le roi, il défendait le trône. Et lorsque nous devenons des intercesseurs, nous ne sommes pas là juste pour nos petits bobos. Il faut le faire. Souvent, j'étais un petit peu déséquilibré dans ce domaine. Il faut prier pour nos petits bobos, et il faut prier pour nos petits-enfants, et il faut prier pour les gens qu'on aime. De toute façon, vous le ferez, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, nous avons... Le jugement va venir, pas sur nous. Le jugement va venir sur le monde, la colère va venir sur le monde. Et il y a, je sais pas, un trône à défendre. Le Seigneur, il est assis sur son trône, il règne, il regarde. Et quand il regarde, c'est pas la seule fois en plus, il dit, je cherche un homme. et je n'en trouve pas. Il nous est très difficile de parler des sentiments de Dieu. On peut en parler puisque on le voit à plusieurs reprises. Dieu est affligé. Dieu trouva un homme selon son cœur. On voit que quand même le Seigneur a des émotions. Il a créé les émotions. Bien sûr, il est au-dessus. Mais quand même, dans l'esprit religieux du temps d'Ézéchiel, on n'avait pas abandonné le culte, on n'avait pas abandonné les sacrifices, on n'avait pas abandonné tout le fonctionnement et tout le rituel du culte. Ils avaient abandonné Dieu. Et Dieu qui, lui, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait sauvé les gens qui doivent rentrer dans son royaume. Parce que Dieu a commencé une œuvre au calvaire et il l'achèvera. Et il l'achèvera avec des hommes et des femmes qui se deviendront, et des églises qui deviendront le temple de Dieu. Vraiment le temple de Dieu. Alors comment je prie ? Est-ce que je prie pour moi, il y a la prière, je l'ai appelée la prière cinéma. Est-ce qu'il y a des prières au cinéma? Seigneur, si tu fais ça, Seigneur, je te servirai. Seigneur, si tu fais ça, si tu me bénis, Seigneur, c'est clair, je donnerai ma dîme, surtout si tu me bénis beaucoup. Écoutez, moi, ça fait 35 ans que je suis pasteur. Tous les gens, tous, pas 99, tous les gens qui m'ont dit si Dieu fait ça, je le servirai, je n'ai jamais vu des gens qui l'ont fait, en tous les cas pas longtemps. On ne sert pas Dieu par intérêt, on sert Dieu parce qu'il est Dieu et parce que nous l'aimons. La prière au cinéma, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet de ce matin. La prière superstitieuse, il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui prient au cas où, si c'est vrai tout ça. Si c'est vrai ce qui est dans la Bible, c'est au cas où. Au cas où Dieu existerait. Vous vous rendez compte que dans l'année là, je pense qu'il y a besoin de monter quelques marches. Au cas où, je prie. Je prie au cas où. Si je prie, je me mets Dieu de mon côté. Ça, c'est la prière superstitieuse. Elle est vraiment relevée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus le sujet de ce matin. Nous revenons au texte d'Ézéchiel. D'Ézéchiel, ça a empiré. Mais Dieu, lui, il veut, avant que le jugement ne tombe, ou même il veut repousser le jugement. Parce que si vous avez bien lu avec moi dans Ézéchiel, vous avez vu la conclusion. Je sais qu'on ne comprend pas tout de suite, moi j'ai mis du temps aussi, vous inquiétez pas. Mais pourquoi Dieu demande des hommes qui intercèdent pour repousser le jugement? Et c'est ce qu'Habacuc a compris. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions, repousse, reporte le jugement. Mes frères et sœurs, le jugement va venir. Je le répète, les vierges folles vont grincer des dents. Jésus dit à 7 reprises, dans 7 contextes différents, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous les chrétiens qui ne se seront pas appliqués à être les hommes et les femmes qu'ils auraient dû être. Mais Dieu, lui, dans sa puissance infinie, dit les choses. Le pays était rempli de violence, de vol, la recherche du plaisir, le compromis, l'apparence de la piété, la légèreté, le mélange, la confusion, etc., etc. Mes frères et sœurs, l'apostasie, elle est dans le corps de Christ. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Notre pays, notre monde entier est envahi par l'apostasie. L'abandon de la foi. Il y a bien des chrétiens qui veulent suivre Dieu. Mais attention, attention, que ça ne nous engage pas trop, s'il vous plaît. Que ça ne nous engage pas trop. Le jugement, il est décrété. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Je le répète, ça ne vous concerne pas si vous êtes un véritable chrétien. Ça ne vous concerne pas. Mais quand même si ce qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, comme l'a entendu, il n'empêche quand même que nous voudrions que des multitudes, et en plus nos proches, soient sauvés, oui ou non. Est-ce que le salut des pécheurs, ça vous préoccupe? Est-ce que le salut de vos enfants, ça vous préoccupe? Ou vous avez mis ça de côté en disant, ah ben écoutez, si c'est un mulet, c'est son problème? Moi, je crois, mes frères et sœurs, que Dieu, il aime nos enfants, que Dieu aime notre nation, que Dieu aime les pécheurs, malgré le fait qu'ils sont en train de s'attirer la colère de Dieu. Oui, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Que son nom soit béni, nous sommes encore dans la dispensation de la grâce. Et Dieu qui constate ces choses, Dieu n'est pas là pour nous écraser, Dieu est là pour nous éclairer. Oui, le corps de Christ est dans l'apostasie, les églises sont apostates, les croyants se détournent de Dieu, les gens ont l'apparence de la piété, on célèbre le culte, mais c'est creux. Le temple est souillé, combien de chrétiens se souillent ? Puis ils ne se rendent même pas compte, le problème c'est ça. C'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Alors, franchement, je vous le dis pour vous rassurer en même temps. Vous savez, moi je me tiens devant Dieu. Vraiment, c'est ce que Dieu me demande. Et je sais très bien que les pasteurs, nous sommes responsables à... Allez, soyons honnêtes, à 80%. Je le pense. J'en ai honte. Pourquoi ? Parce qu'à la place d'amener la vie, nous avons tué les églises avec notre théologie et notre doctrine sans la vie de l'esprit. C'est notre faute. Je vous assure que c'est vrai. Ne pensez pas que j'essaie de jouer des trucs. Non, je ne joue rien du tout. Je vous dis que si nous nous tenons devant Dieu, nous amenons la vie. Si nous ne tenons pas devant Dieu, nous amenons la mort. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et Dieu, dans sa grâce, moi j'aime énormément cette parole, si vous pouvez ouvrir votre Bible dans Ézéchiel 22. Il y a un texte, moi, qui me bouleverse. Ça m'a bouleversé il y a quelques années en arrière, quand j'ai lu le verset 30. C'est pour vous dire quand même la bonté de Dieu. Lisez avec moi, mais vraiment lisons-le avec cœur. Dieu fait le constat de tout ce qui ne va pas. Et franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et au verset 30, Dieu dit, je cherche... Parmi les anges, je cherche surtout pas parmi ces gens. Est-ce que vous avez vu la tendresse de notre Dieu ? Dieu cherche parmi ces gens qui vont pas bien. Vous trouvez pas ça merveilleux ? Je cherche parmi eux. Parmi ces hommes qui n'ont pas fait leur travail, parmi ces sacrificateurs, parmi ces lévites, parmi ces serviteurs de Dieu qui ont fait tout de travail, trop de travers, Dieu dit, je cherche parmi eux. Vous pouvez dire, béni soit Dieu. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas été le serviteur, la servante, le pasteur. Je n'ai pas été l'homme, la femme que j'aurais dû être. Mais Dieu ne nous repousse pas. Je cherche parmi vous. Dieu aurait pu dire, moi, qu'est-ce que vous auriez dit, vous ? Moi, j'aurais dit, écoute, surtout pas parmi eux. Surtout pas parmi eux. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas fait l'affaire jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien, ça peut changer. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas été correct ? Nous n'avons pas été corrects. Nous n'avons pas été celui ou celle que nous aurions pu être. Et bien à partir d'aujourd'hui, ça peut changer. Ça peut changer. Approche-toi pour écouter. Approche-toi pour devenir le chrétien, la chrétienne, le ministère, le serviteur, etc. que Dieu veut que tu sois. Je comprends pourquoi l'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Mais la prière fervente, de qui ? A une grande efficacité ? Du juste. » Si nos prières ne sont pas efficaces comme Dieu le voudrait qu'elles soient, parce que je le répète, si Dieu a institué la prière, c'est pour nous exaucer. C'est pour que nous obtenions, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. » Il n'est pas dit « afin de prier », il est dit « afin d'obtenir ». Ça devrait nous encourager peut-être à mieux prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que nous voulons que nos prières soient efficaces ? Ou est-ce que nous voulons bâcler ça à la religiosité comme nous le faisions avant de nous convertir, où nous récitions des prières ? Moi je me souviens quand je suis venu à l'église et que le pasteur a dit « Je me suis mis à genoux pour prier. » Moi dans ma tête J'étais, je ne sais même pas si j'étais converti. J'ai dit, il se punit tout seul, le gars. Parce que moi, quand j'étais petit, on me mettait à genoux. Et c'était une punition. Et moi, quelqu'un qui se mettait à genoux pour prier, je me suis dit, mais il est bizarre ce gars. Il se met à genoux, il se punit tout seul. Mes frères et sœurs, la prière, c'est une grande bénédiction. Je cherche parmi eux un homme. Nous, on est là avec nos calculettes, et il faudrait ceci, et il faudrait cela. Nous, on cherche des méthodes, et Dieu lui cherche des hommes. Est-ce que tu veux être cet homme qui fera mouvoir cette femme, qui fera mouvoir le bras de Dieu? Mais monsieur Gros, vous croyez, c'est possible? Eh bien oui. Est-ce que quelqu'un peut faire mouvoir le bras de Dieu? Ben oui, c'est écrit. Vous vous rappelez cette femme dont Jésus utilise la parabole, cette femme qui est malmenée par un juge inique, qui ne veut pas lui accorder ses droits. Elle a un droit et elle persévère, jusqu'à ce que le juge inique cède et elle obtient gain de cause. Vous connaissez cette parabole? L'enseignement, le contexte, c'est Jésus leur enseigna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Alors qu'est-ce que c'est le droit pour nous? Parce que c'est bien joli, des fois c'est abstrait nos prédications. C'est quoi le droit pour nous? Le droit pour nous, c'est toutes les promesses de la Bible. Vous en connaissez des promesses dans la Bible? Vous vous rappelez le cantique qui a été chanté? Il y en a eu plusieurs qui ont été cités. Quelles sont les promesses de Dieu pour moi? Quelles sont les promesses de Dieu pour notre Église? Est-ce qu'il y a une promesse que je pourrais saisir dans mon cœur? Cette promesse, j'ai le droit devant Dieu de la réclamer. Seigneur, tu veux telle chose, je la réclame. Tu es un Dieu de paix, je resterai dans ta présence. Il faut que je retrouve cette paix. Ce n'est pas normal que j'aille chercher le plaisir dans les choses du monde. Moi qui suis capable de chanter, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Et dès que je suis sorti de l'église, je suis capable de chercher le plaisir dans le monde. Approche-toi pour écouter. Ne te presse pas de parler. Presse-toi d'écouter. Lorsque tu ouvres le Saint-Livre, mais je voudrais réaliser tout à nouveau les promesses de Dieu. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Vous croyez que Dieu est intéressé, franchement, à envoyer son jugement? Soyons intelligents. Le jugement sera la conséquence des hommes qui n'auront pas voulu la grâce. Mais Dieu veut repousser son jugement. Et c'est le moment de se lever, comme ces hommes de David, quand ils ont vu justement que David était fatigué, parce qu'il était vieux, et parce que les frères de Goliath cherchaient à le tuer, parce que l'ennemi cherche à détruire l'œuvre. Je viens d'un séminaire en Espagne, et j'ai été attristé de voir la quantité de pasteurs qui étaient à ce séminaire et qui ont arrêté le ministère. Et qu'ils sont venus nous trouver, soit moi ou les épouses, trouver Isabelle. Franchement, je vous assure, ça m'a fait de la peine. Et je voudrais tous qu'ils aient une assemblée comme la mienne, où vous m'encouragez à me tenir devant Dieu. Je sais que le privilège que j'ai, il vient aussi de vous. Merci, du fond du cœur. Mais quand vous voyez des jeunes pasteurs qui arrêtent, écoutez bien, je vous donne une info super intéressante. Dans le mouvement baptiste, qui est un bon mouvement, en 5 ans, 80% des prédicateurs qui sont rentrés dans le ministère ont arrêté le ministère. Dieu dit, je cherche un homme. Ce matin, je le sais, Dieu cherche une femme, une servante, une femme de foi, une femme de prière, une femme qui considérera la prière comme une faveur. Prier, si... Ah, j'ai pas prié aujourd'hui. Oh, il faut que je prie un quart d'heure. Si monsieur Gaume le demande. Un jour à la sortie, je demande presque plus. Je disais des fois, vous avez lu la Bible cette semaine? Et un jour, il y a une dame qui m'a dit, je lis la Bible parce que j'ai peur que vous me demandiez si je lis la Bible. Une brèche dans la muraille, c'est une percée où l'ennemi peut s'infiltrer. Et Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il n'est pas question de faire des petits allers-retours de temps en temps. Il est question de s'y tenir. Je me tiens, que je sois à l'église, que je sois dans ma maison, ou même que je sois au travail, en train peut-être de faire des choses peut-être très très ingrates, peut-être, entre guillemets. Je me tiens à la brèche, Seigneur. Je prie pour ce pays. Je prie pour les églises. Je veux être cet homme fort pour le roi des rois. Ce n'est pas le moment de fuir, mes frères et sœurs, l'église. C'est le moment de rester à l'abri du Très-Haut. Parce que quand même, je plains ceux qui auront marché avec Dieu, pour ainsi dire, toute leur vie, et quelques jours avant l'enlèvement, auront réellement rétrogradé. Ils vont s'arracher les cheveux, je vous le dis. Ils vont s'arracher. Et il y en aura. Et j'espère que je me trompe. Je cherche parmi eux. Mon frère, ma sœur, ne te sens pas exclu. Ne te sens pas misérable. Dis-toi, mais c'est vrai. Il faut que je revoie la prière. La prière, c'est un combat. C'est vrai que les 10 premières minutes, souvent, c'est un combat. Vous avez tous vérifié ça. Tous, oui ou non? Vous avez remarqué, si vous priez pas plus de 10 minutes, vous aurez du mal à le vérifier. Mais si vous avez prié plus de 10 minutes, un quart d'heure, vous avez remarqué souvent que les 10 premières minutes, c'est vraiment un combat. C'est pas vrai? Et on passe à un truc, et on pense à un autre. C'est pas vrai? Et il me faut faire aussi. Ah, la voiture, tiens. Mais c'est tout d'un coup, des trucs débiles, souvent. Complètement débiles, quelqu'un dit oui. Donc, je comprends que ça doit être plusieurs. Mais c'est pas vrai? C'est pas vrai, des fois, quand vous vous mettez à prier, vous avez des pensées complètement débiles. Ou est-ce que c'est qu'à moi que ça arrive? Il n'y a qu'à moi? Mes frères, parce qu'il y a un combat. Mais après, mes frères et sœurs, je crois que c'est comme un mur. On l'a défoncé et on entre dans cette présence où on peut parler librement à notre Dieu. Et on peut combattre. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est sûr que si Dieu dit... du temps d'Ézéchiel, mes serviteurs, mes servantes, mes sacrificateurs, ils profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et ce qui est impur, etc., etc. Eh bien, la personne que Dieu recherche, c'est une personne qui saura faire ces choses. Ça va de soi. C'est une personne qui saura séparer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est profane de ce qui est saint, etc. Si vous inversez le texte, les reproches, eh bien voilà, l'homme, la femme, l'église que Dieu recherche, c'est une église qui ne profane pas le nom du Seigneur, qui ne mélange pas les choses de Dieu. Nous devons faire attention à tout. À tout. Est-ce que ça, Dieu le permet? Est-ce que c'est bien? Oui ou non? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà. Si vous avez pour habitude de mettre des choses mauvaises devant vos yeux, vous affligez l'œuvre de Dieu. Vous méprisez le Saint-Esprit. Vous éteignez le Saint-Esprit. On peut chanter en boucle « Je veux que ma vie soit remplie ». Mais si mon cœur est envahi de choses mauvaises, eh bien je devrais dire au Seigneur, écoute, fais le ménage. Fais le ménage, Seigneur. Parce que moi, je veux que les aveugles et les boiteux, ils soient guéris. Mais vous parlez des inconvertis, monsieur Gou? Non. Des aveugles, il y en a dans la maison de Dieu. Des gens qui ne voient pas l'intérêt de prier, c'est des gens... Il y en a qui... Moi, je ne vois pas pourquoi prier. Je ne sais pas pour qui prier. Mais vous êtes un aveugle. Si vous ne voyez pas pourquoi prier, si vous ne voyez pas qu'il y a besoin de prier, vous êtes un aveugle. Mais Jésus ne les a pas rejetés, il les a guéris. Si vous êtes un boiteux, comme ces gens qui sont entrés dans le temple, ils boitaient, ça. C'était beau en même temps. Ils se sont pas... Pourtant, Jésus venait de faire le ménage. Mais vous savez, quand Dieu fait le ménage dans l'église, c'est une grande bénédiction. Ça ne nous éloigne pas de lui, c'est pas possible. Eh bien, ils se sont approchés, je ne sais pas s'ils avaient des cannes, des béquilles, j'en sais rien. Ils se sont approchés, les boiteux, c'est quoi un boiteux? Un boiteux spirituel, mais c'est quelqu'un qui prie une fois, un jour il prie pas, le lendemain il prie, 3 jours après il prie pas, il boite. Seigneur, je boite. Seigneur, je boite, vraiment. Des deux jambes. Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Oui. Je veux te guérir, t'es mon fils. Moi j'aime ça quand Jésus guérit les gens. Vous croyez que ce matin, le Seigneur pourrait guérir quelqu'un? Quelqu'un qui dirait, mais moi Seigneur, je suis pas dans un cas, je suis dans les deux. Je boite et j'y vois rien. Ouvre mes yeux Seigneur, que je vois ce que je dois faire. Moi vous savez, moi j'ai honte, mais j'ai honte. Grave. J'ai vraiment honte. Parce que je le sais depuis 35 ans, que les pasteurs, qu'est-ce qu'il est dit aux des pasteurs dans Actes 6 ? Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes 6 ? Que les pasteurs, ils doivent s'appliquer à la parole et à la prière. Oui ou non ? Et je vous remercie vraiment du fond de cœur, parce que vous êtes nombreux maintenant à m'encourager à rester dans la présence de Dieu. Merci. Plutôt que de me pousser à faire plein de trucs qui ne servent à rien. Il faut que chacun fasse ce que Dieu lui demande. Alors, oui, je le redis pour terminer. Je cherche parmi vous, dit le Seigneur. Vous, oui, oui, vous qui m'écoutez sur Internet. Vous qui n'avez peut-être plus de vie d'église, vous qui boitez, vous qui êtes aveugle, vous qui n'avez même plus de vie d'église. Eh bien, Dieu ne te rejette pas. Dieu te dit... Je cherche parmi vous tous qui écouteraient cette prédication. Tous, même toi qui ne vas vraiment pas bien. Je cherche des hommes parmi vous. Nous, on aurait dit, surtout pas parmi vous. Vous m'avez trop déçu. Non, le Seigneur, il ne parle pas comme ça. Il sait ce qu'il peut faire avec un homme, une femme, un jeune, une personne moins jeune, qui dit « je vais ». Dans la présence de Jésus, il faut que ses mains m'atteignent. Je veux être guéri de ma claudication. Je veux être guéri de ma cécité. Je veux que tu me trouves comme ces hommes forts de David. Nous avons un roi et Dieu nous demande de le servir. Alléluia. Il est 11h10, on va fermer les yeux, frères et sœurs. C'est bien d'avoir quelques minutes. Ne te hâte pas de parler, mais quand même, tu peux peut-être lui répondre dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Dieu, sérieusement, simplement, peut-être une parole qui, dans votre cœur, il va l'entendre le Seigneur. Vous savez que Dieu regarde au cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut lui répondre ? Vraiment dans son cœur. Mes frères et sœurs, vous savez, moi je viens de faire ma part, réellement, consciencieusement. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre, dans le silence de votre cœur. Seigneur, tu m'as montré ça, tu m'as rappelé ça. Tu ne me juges pas, je boite des deux pieds, je suis aveugle complètement. Mais je ne me sens pas jugé. Tu peux poser tes mains sur moi. Pardon, Seigneur. Pardon. Et il vous pardonnera. Et il vous guérira. Nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas dans les assemblées de Dieu, dans l'église de Saint-Guilhem. Nous sommes devant le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il serait peut-être bien de demander à quelqu'un s'il le souhaite peut-être d'exprimer sa foi en se levant à sa place simplement, en disant « je veux qu'on prie pour moi ». J'ai besoin d'un nouvel attouchement. J'ai besoin d'une guérison, physique peut-être, spirituelle. Eh bien même s'il n'y a qu'une personne qui se lève, je me ferai une grâce de prier pour vous. Parce que Dieu ne nous parle pas pour nous parler, Dieu nous parle pour nous aider, nous guérir. Et mon frère, si tu désires te lever, ma sœur, lève-toi. Lève-toi devant Dieu, je vais prier vraiment et je crois vraiment que Dieu va exaucer. Je le crois vraiment, en toute humilité. Sa maison, mon temple, mon corps, mon être deviendra le temple du Saint-Esprit. Dans ce temple où Jésus avait dit « mes yeux seront toujours ouverts ». Je vais prier. Si quelqu'un d'autre veut se lever, vraiment faites-le. Faites-le solennellement, consciencieusement. Je veux être cet homme. Je veux être cette femme. Tu m'aideras, Seigneur, à me tenir à la brèche pour ce pays, pour les églises apostates. Pour le corps de Christ, pour ma famille, je me tiendrai à la brèche. Prions mes frères et sœurs. Notre Père, nous voyons bien dans ta parole que tu repousses ce jugement. Et comme Habacuc l'a fait, nous aussi nous le faisons dans ta colère, Seigneur, qui vient. Souviens-toi de tes compassions. Nous croyons que tu cherches parmi l'Église des hommes et des femmes qui connaîtront ce qu'est la prière. Cette prière fervente du juste. Oui, tu guéris les aveugles. Oui, tu guéris les boiteux. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu ne nous rejettes pas. Tu as chassé du temple tout ce qui n'était pas ta gloire, mais tu as guéri les hommes. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Et nous voudrions ressembler à ces hommes forts de David qui défendaient le trône d'Israël. Nous, nous voulons défendre le trône de Dieu en servant l'Éternel, en étant ces hommes et ces femmes qui te glorifieront sur la terre, là où tu nous as placés. Je te prie aussi pour tous les gens qui nous écoutent sur Internet, afin, Seigneur, que tu leur donnes à tous la grâce de devenir ces intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui ont compris la bénédiction de l'intercession. Merci, Seigneur, merci. De ne pas nous juger, mais toujours de nous sauver et de nous garder. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.